Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL FM. Re-bienvenue à Recto Verso. On entame déjà cette deuxième heure de l'émission et vous êtes toujours en compagnie de Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL FM. Et donc, cette deuxième heure sera beaucoup plus consacrée à un petit côté politique, comme on pourrait dire. C'est très rare à l'émission qu'on reçoit des politiciens. En fait, je pense que ça serait la première fois qu'on va recevoir quelqu'un qui se présente en politique partisane. Mais, donc, contrairement à mes collègues de quartier politique qui aiment réaliser des entrevues de fond et tout ça, et qui le font très bien, l'émission Recto Verso est davantage axée sur la diversité et parler un peu des enjeux sociétaux qui sont sous-jacents. Mais l'intérêt pour moi de recevoir Madame Eve Torres, comme je vous ai dit en début d'émission, c'était vraiment pour parler d'un peu la couverture médiatique qu'elle a vécue. Eve Torres, c'est une candidate à l'investiture pour la circonscription de Mont-Royal-Outremont pour Québec solidaire. Et c'est assez rare qu'on voit autant de brouhaha politique et médiatique autour d'une candidate à l'investiture pour Québec solidaire. Pas qu'il ne mérite pas d'avoir la couverture, mais simplement qu'on c'est assez inhabituel. Et pourquoi, en fait, on lui a accordé un peu plus d'attention dans les médias? C'est simplement parce que Mme Torres va être la première candidate à se prémunir du changement à la loi qui permet maintenant aux candidats et candidates de niveau provincial de pouvoir se présenter avec la tête couverte. En fait, c'était un vieux règlement qui a été changé, on en parle un peu en début d'entrevue, mais qui finalement devenait un petit peu discriminatoire, en fait, pour les personnes, par exemple, de confession sikh, pour les hommes, en fait, de confession sikh qui portent le turban, ou encore pour les personnes juives qui portent la kippa, ou encore pour les personnes qui porte justement le hijab comme Madame Torres. Mais donc ça a soulevé beaucoup les passions, surtout parce qu'on voit un grand débat autour de tout ça depuis plusieurs années, depuis les temps des accommodements raisonnables ou encore au niveau de la Charte des valeurs, au niveau de justement est-ce qu'on permet ou pas le port du hijab ou juste en général qu'est-ce que le hijab, ce voile musulman, représente dans l'œil de plusieurs personnes. Et donc on a vu que ça a soulevé beaucoup, beaucoup de passions. On parle entre autres de plusieurs chroniqueurs qui ont émis leur opinion, en fait, et qui ont dit en fait que Mme Torres était une islamiste. Donc là, on tombe dans des termes un peu plus poussés qui viendraient à dire finalement qu'elle encourage la violence au nom de l'islam, ce qui n'est pas pourtant le cas. Donc, on a pris cette discussion-là vraiment sur un angle de comment est-ce qu'elle avait pris un peu la couverture médiatique de tout ça, puis comment ça s'était passé un peu dans les faits. Le but ici n'est pas vraiment de mettre de l'avant un agenda politique ou un autre, mais vraiment juste de donner un peu la parole à justement une citoyenne comme celle-ci qui a décidé d'aller en politique partisane et voir comment le fait de s'afficher comme musulmane croyante et portant le hijab avait finalement affecté cette décision. Donc, trêve de présentation, l'entrevue que j'ai réalisée la semaine dernière avec Mme Torres.
Bonjour, mon nom est Eve Torres. Alors moi, je suis au Québec depuis 20 ans bientôt, originaire de France. C'est ça, il y a 20 ans maintenant que j'ai choisi le Québec. C'est comme étudiante étrangère que je suis arrivée ici et que j'ai pris la décision de m'y installer. Après des études en droit et en anthropologie, je me suis impliquée, ça fait maintenant plus de 16 ans que je m'applique dans la société pour ce qu'on appelle le vivre ensemble. Alors j'aime bien y mettre un peu des guillemets parce que je trouve qu'aujourd'hui on doit redonner au vivre ensemble ses lettres de noblesse. Mais donc plus de 16 ans d'implication sociale, citoyenne, par différents biais, avec différents organismes, une implication auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, des itinérants. Ma préoccupation depuis toutes ces années est de tisser des ponts entre les différentes personnes qui composent notre société et aussi d'avoir à cœur vraiment le souci d'améliorer, de travailler sur cette justice sociale qui me tient à cœur depuis toujours.
Et là, en plus, en parlant du parcours d'immigrant, vous finissez par faire un peu ce que la grande société souhaite toujours, hein, des personnes qui viennent à arriver dans un nouveau pays, qu'ils s'impliquent, qui s'impliquent par le bénévolat, qui s'impliquent dans la construction de cette nouvelle société, puisqu'ils en font partie maintenant. Donc là, c'est un peu ça qui nous amène ici aujourd'hui. C'est un peu votre implication au niveau social, mais c'est un peu le côté un peu plus public de cette implication-là qui va passer peut-être à travers une candidature aux élections. Pour l'instant, vous êtes candidate à l'investiture pour Québec solidaire dans la circonscription de Mont-Royal-Outremont. Oui. Donc là, ça vous a mis un peu de l'avant au niveau public et on va parler un peu de ça aujourd'hui. Oui, on va parler de tout ce qui est les enjeux qui vous portent à vous présenter, mais c'est aussi beaucoup dans l'idée de comment vous avez été représentée dans les médias puis comment on le vit de façon personnelle, cet engagement-là au côté politique dans ce cas-ci. Donc un peu pour faire un petit recap des faits, depuis que vous êtes présentée à l'investiture qui va avoir lieu en fait le 26 mai. Après ça, sinon on va aller, vous allez passer le processus qu'on connaît à Québec solidaire pour devenir candidate aux élections dans la circonscription. Donc ça vous a mis un peu de l'avant parce que depuis quelques mois, on parle de plus en plus, en fait, depuis que un règlement a été aboli au niveau du gouvernement provincial, de maintenant avoir la possibilité d'être candidat, candidate avec la tête couverte, c'est comme ça qu'on dit, ou avec un couvre-chef?
Avec un couvre-chef, c'était la définition. En fait, si je peux me permettre, effectivement, ouais. Depuis le 18 octobre passé, on a porté à mon attention donc ce règlement du DGEQ qui n'est pas un règlement volontairement discriminatoire, c'était plutôt un règlement désuet qui exigeait que le candidat ou la candidate pose sa photo sur son document de candidature avec la tête nue jusqu'aux épaules. Ouais. Donc, ce qui posait effectivement une problématique pour les personnes qui portaient un couvre-chef, que ce soit un signe religieux ou bien que ce soit à la suite d'une maladie qui souhaitait garder un bandana.
Ouais, en fait, dans n'importe quelle circonstance finalement du couvre-chef, ça venait en fait, je pense, au niveau historique par rapport à la question de la politesse d'enlever le chapeau et tout ça.
Tout à fait. Donc, c'est une loi de 89, ouais. Effectivement, qui voulait que on se découvre. Oui, c'est ça, pour ces raisons-là.
Donc, justement, vous avez été impliqué dans le mouvement qui a été de porter l'attention du DGEQ sur ce règlement-là. Et maintenant, vous allez un peu utiliser la nouvelle autorisation qui est pour pouvoir vous présenter aux élections. Et ça l'a fait, comment on pourrait dire, tilter plusieurs médias sur la question. Donc, avant d'aller sur les gros titres qu'on a pu entendre dans plusieurs médias, peut-être faire un petit recap pour nos auditeurs et auditrices de qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à vouloir vous présenter aux élections provinciales qui va avoir cet automne.
Eh bien, tout d'abord, c'est ça, comme je l'ai mentionné peut-être en introduction, ça fait plus de 16 ans que je suis impliquée dans les milieux sociaux communautaires, on va dire. Ça fait, en fait, toute cette implication-là m'amène à des constats qui font que tout le travail de construction que des militants et des militantes font pour se vivre ensemble, font pour établir des liens, pour améliorer tout ce contexte et ce climat social, à chaque petit événement qui est soulevé médiatiquement ou par les politiques en place, ça vient défaire, déconstruire tout ce travail et toutes ces rencontres avec des gens que l'on fait pour tisser des liens, le un à un, ces rencontres qui sont encore nécessaires aujourd'hui pour démystifier effectivement certaines choses, n'est pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant, on n'y arrive pas tout seul. Et je me demande jusqu'à quel point donc on se retrouve assigné à faire ce travail de déconstruction de préjugés et de construction de liens, mais on n'arrive plus. Pour moi, après toutes ces années, je me dis on n'y arrivera pas seul. Ça prend des décisions politiques claires, ça prend que les médias mettent en avant tout le côté positif et toute l'implication des personnes, entre autres, issues de la diversité. Et je me suis dit à un moment donné, ok, il faut, pour moi, c'est important de faire partie de ce système-là, d'aller plus loin. Et donc, étant passionnée de politique, et j'ai été orpheline politique pendant des années au Québec parce que je suis une personne engagée pour la justice sociale depuis toujours, je suis une personne de gauche, mais ça me prenait une observation. Et effectivement, c'est avec Québec solidaire que j'ai choisi de m'engager parce que c'est une famille politique qui correspond à ma vision de ce projet de société. C'est un parti féministe qui lutte pour la justice sociale, qui a vraiment, à mon sens, à cœur le souhait de remettre l'humain au cœur des préoccupations, et c'est mon souhait également. Donc il y a beaucoup de choses dont on pourra parler peut-être par la suite au niveau du programme qui m'intéresse, parce que ce sont les gens qui m'intéressent, et depuis toutes ces années, c'est la voix des gens que j'essaye de porter, et c'est en politique partisane que je choisis de le faire aujourd'hui.
Et Québec solidaire est quand même assez bien reconnu à travers, quand on regarde les statistiques, là, je le dis pas nécessairement par opinion, mais vraiment plus au niveau statistique, pour la représentativité de leurs candidats, quand on parle que c'est dans les premiers partis à avoir mis un point d'honneur vraiment à la parité homme-femme, et là, de plus en plus avec la représentation des minorités visibles. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ça fait un peu d'être... C'est sûr qu'au niveau de Québec solidaire, vous êtes les personnes qui sont issues des minorités visibles sont beaucoup plus nombreuses. Donc, on finit par être moins vues de façon indépendante, je présume. Mais au niveau de la politique provinciale, ça reste encore quelque chose qui est très minoritaire. On est très sous-représenté au niveau des minorités visibles quand on parle des candidats, mais aussi par rapport aux élus. Comment vous abordez un peu cette idée-là de comme, à quelque part, quand vous allez vous présenter, ça va être un changement de milieu un petit peu, même si on voudrait s'attacher à Québec Soldat, comment vous abordez un peu cette idée-là que vous allez redevenir un peu dans un certain sens, encore vu comme une représentante de la minorité plutôt?
Oui, alors c'est beaucoup, hein. C'est un point qu'on m'a souvent mis de l'avant. Pourquoi avoir choisi le provincial? Parce que en ce qui a trait justement à ce que vous soulevez, la représentation des minorités, c'est pas flagrant, mais c'est le Québec qui m'intéresse. C'est le Québec avec lequel je veux m'investir. C'est ça que j'aime, et c'est vraiment à ce palier de gouvernement que j'ai envie de faire des choses. Je pense qu'il y a la place pour ça. Et il faut toujours des premières fois. Je pense que aujourd'hui, on est rendu là. On est rendu là au Québec. On ne peut pas. Ça fait des années que des personnes comme celles que je représente, ça fait plus de 10 ans qu'on est utilisé dans la sphère politique. Pour aller chercher des gains pour dans un contexte donc sociopolitique, on est utilisé sur de différentes façons, et on n'a pas voix au chapitre finalement. On se retrouve au cœur de débats sans forcément avoir une voix, et en choisissant cette implication là ça permet de m'asseoir certainement avec certaines personnes d'autres partis et d'avoir voix au chapitre. Et effectivement, comme je le disais, je le mentionnais dans des entrevues le jour de mon lancement, je veux pas porter uniquement l'enjeu du religieux, ouais. Etc. Mais ça fait partie effectivement de ce que j'incarne. Et puis il a fallu des premières femmes en politique. Il y a eu des premiers noirs. Il y a eu des premières femmes homosexuelles. C'est ça. Il y a des personnes de la diversité. Il y a un terme sur lequel je voudrais revenir, la représentation de la diversité. C'est pas comme ça que je l'inscris. C'est pas une représentation c'est vraiment au sein de Québec solidaire, c'est pas, et dans tous les partis d'ailleurs, le concept doit changer. Ce n'est pas de la représentation qu'on fait. C'est vraiment faire partie intégrante d'un parti politique avec lequel on apporte aussi des réflexions et sur lesquelles on développe
dans ce cas-ci, quand on parle de représentation, vous le voyez un peu dans le terme de représentation politique qu'on fait en termes de lobby.
Tout à fait.
OK.
Pour remplir, oui, c'est ça. Souvent, quand on parle de représentation de la diversité, les gens disent, et puis ce qu'on trouve, c'est les partis politiques se contentent d'avoir une représentation qui permettra de répondre à certains quotas, justement. Mais c'est pas seulement ça. Je pense que les personnes issues de la diversité qui se présentent en politique, et j'avais écrit un article là-dessus qui s'appelait au-delà de la vitrine, c'est dans Presse-toi à gauche, au-delà de la vitrine de la diversité au sein des partis politiques. C'est important d'aller au-delà de ça. Les gens de la diversité qui se présentent, peu importe le parti, mais là notamment à Québec solidaire, sont des gens qui adhèrent à des valeurs politiques et sociales communes, sont des gens qui ont des vrais projets, sont des gens qui sont réellement engagés au-delà d'une représentativité et qui sont impliqués dans le parti et auprès de leur communauté. Donc, il faut dépasser cette représentativité.
Mais au-delà de tout ça, il faut quand même le dire, même si on voudrait que l'identité soit seulement définie par les personnes qui la portent, ça reste que c'est souvent défini par le regard des autres. Et même si on veut pas justement être tokenisé, d'être la personne qui représente la diversité, c'est ça un peu que vous avez fini par être à travers tout ça, parce que contrairement à plusieurs candidats à l'investiture de Québec solidaire, on va se le dire, la vôtre a été vraiment plus explosive dans les médias. Même à travers les partis politiques, on a entendu des personnes comme Jean-François Lisée, le chef du Parti québécois, réagir à votre candidature à l'investiture, alors que vous n'étiez même pas encore candidate officielle aux élections, en fait, que vous ne l'êtes pas encore, même point. Moi, je me demandais surtout à travers tout ça, parce que on a vu des titres vraiment par plusieurs chroniqueurs assez alarmistes, on va se le dire, qui vous qualifient de lobbyiste pour l'islam politique, qui vous qualifient d'islamiste. C'est des termes qui sont assez forts, on s'entend, des termes qui, en fait, serait qualifié en presque de... Si vous étiez vraiment islamiste, faudrait que ça soit reconnu par un tribunal, presque. C'est vraiment des termes qui sont super forts. Donc, on peut pas les utiliser à la légère, mais pas du tout. Moi, je me demandais surtout au niveau personnel. Comment on fait pour vivre avec un peu cette réaction-là de notre identité qui devient complètement publique, ou que tout le monde finit par avoir une opinion sur nos intentions, sur nos intentions autant au niveau politique qu'au niveau de votre religion. Et c'est que, oui, en tant que tel, vous êtes un être privé, comme n'importe quelle autre personne qui aurait une confession musulmane à travers le Québec, qui vit de la discrimination tous les jours, mais là, c'est que encore plus au-delà de ça, vous devenez une personnalité publique. Et je me demandais comment ça se vit, en fait.
Alors, juste déjà, par rapport à la candidature à l'investiture, depuis le 26 avril passé, les mises en candidature sont terminées, donc personne d'autre a posé sa candidature dans Mont-Royal-Outremont.
OK, donc c'est pas nécessairement un processus qu'il pourrait encore arriver.
Voilà, ça va être... Voilà, les mises en candidature sont terminées depuis le 26 avril. Historiquement, dans Mont-Royal-Outremont, ça a toujours été des femmes élues par acclamation, donc j'espère avoir ce privilège-là, finalement. Effectivement, la couverture médiatique a été terrible, et les discussions politiques aussi. Vous parliez de Monsieur Lisée, mais quand même, je ris, parce qu'il faut savoir que le changement de règlement au DGEQ qui a été porté à l'Assemblée nationale a quand même été adopté par l'unanimité. On s'entend que être député, c'est être le représentant de la population. Donc, c'est les citoyens et les citoyennes qui choisissent la personne par laquelle ils se sentent représentés. Donc, n'importe quel citoyen qui s'investit ou qui rentre dans cette sphère politique et qui est choisi par ses concitoyens, devient un représentant. C'est pas une carte blanche lorsqu'on est député à l'Assemblée nationale. C'est pas une sphère de pouvoir absolue où on est censé représenter les citoyens. Donc, Monsieur Lisée, là-dessus, devrait effectivement revoir cette position-là. Je pense que ça serait intéressant. Par rapport à l'impact, oui, il y a eu une couverture terrible et dont certains propos sont carrément diffamatoires. Donc ça sera quelque chose à voir plus tard. Je m'attendais à ce type de couverture. C'est pas nouveau. Même dans mes implications militantes, j'ai eu à intervenir dans les médias à plusieurs reprises. Donc
comment on se prépare à ça?
C'est malheureux à dire, mais ça fait plus de 16 ans que je suis impliquée, et finalement le tournant majeur au niveau du climat social était, oui, il y a eu en 2007 les accommodements raisonnables, il y avait eu avant ça le 11 septembre, mais le grand virage, c'était la charte des valeurs, où il y a eu cette haine un peu délibérée, c'est-à-dire que au-delà du racisme, il y a une forme de hiérarchisation. Beaucoup de gens vont se trouver ou se dire antiracistes aujourd'hui, mais en ce qui concerne le fait religieux, vont se permettre à outrance. Donc, il y a une distinction aussi à faire en ce sens. On se prépare pas à ça. C'est-à-dire qu'on le vit au quotidien. ce racisme, cette xénophobie, ces préjugés-là.
Oui, parce que d'ailleurs, justement, juste avant qu'on rentre en onde, vous me racontiez justement qu'avant d'arriver, vous en aviez vécu un acte de racisme, même pas ordinaire, là, du racisme qu'on peut réduire, comme on dirait.
Bien, effectivement, oui, c'est vrai, sur le stationnement, c'est ça, une dame à qui je demandais mon chemin me disait, oh, vous savez, moi, je me libérerai. Est-ce que vous connaissez la parole de Jésus? Il faut lire la Bible. Alors, paradoxalement, là, on n'est pas dans l'anti-religieux. On me demande de trouver une religion autre, ce qui est très drôle, d'ailleurs, parce que on aurait pu aller vraiment dans l'anti-religieux complètement, mais là, c'était vraiment autre chose. Mais toutes ces... Au début, on parlait de micro-agressions quotidiennes. Maintenant, il serait temps de plus employer ce terme, en fait. Il y a une forme de violence verbale, pas toujours physique, mais ça devient une violence, ces micro-agressions répétées, mais avec lesquelles on est habitué, malheureusement, à vivre. Ça fait quand vous êtes impliqué et que vous représentez cette catégorie de la population qui est stigmatisée et médiatiquement et utilisée aussi politiquement, à ce moment-là, effectivement, vous devenez la cible. Quand les personnes qui nous représentent dans les médias, qui ont une parole publique, ou les politiciens, justement, qui représentent la population, se permettent eux-mêmes d'avoir des discours... On peut se le dire, des discours islamophobes, si je reprends les paroles de Monsieur Lisée un jour qui parlait de cacher des AK-47 sous son voile, etc. Enfin, on a entendu autant d'inepties toutes ces années.
Oui, on peut faire des survols, hein, comme aux dernières élections fédérales, c'était la question du voile à visage couvert. Donc là, les gens arrivaient avec des sacs de patates
D'ailleurs, j'ai travaillé aux élections cette journée-là et on a eu 5 cas de personnes.
Moi de même.
Et dont une personne qui refusait, j'avais un greffier, puis moi je m'occupais des élections, et une personne qui refusait que ce soit moi qui prenne son bulletin de vote, d'ailleurs. C'était spécial.
Donc c'est un climat que quand on est un petit peu sensible à la question, on voit que c'est un climat de... Mais c'est ça, c'est violent, puis on dit souvent en plus que quand on n'est pas parti quand on vit pas une discrimination, c'est difficile de l'avoir, hein, parce que jamais moi j'ai vu ça, des personnes se faire justement agresser sur la rue. Pourtant, quand on parle à des personnes, mettons par exemple, de confession musulmane, c'est des choses qu'ils vivent quotidiennement. Donc, tu sais, souvent, on a tendance à prêcher entre convertis, hein, de parler entre personnes qui vivent le même genre de situation. Mais là, puisque on a l'occasion aujourd'hui de se parler, je me demandais, ça serait quoi un peu votre message à travers tout ça aux personnes qui sont pas nécessairement de la même confession que vous, qui vivent pas nécessairement non plus des discriminations parce qu'ils sont issus d'une minorité visible dans leur approche à ce fait-là, surtout le fait de la représentation, j'allais dire la représentation dans le milieu politique,
mais c'est pas grave. Oui, de l'implication dans le milieu politique.
Oui.
Mais en fait, c'est les changements de société. Là. Ce qui, au-delà donc des mauvaises représentations médiatiques et des discussions politiques, j'ai personnellement, et c'est ça un peu, ça me glisse un peu sur le dos comme un canard, comme l'eau sur le dos d'un canard, parce que j'ai confiance aux gens. Et d'ailleurs, nos politiciens, nos élus actuels devraient vraiment s'intéresser plus à ce que pense la population, parce que tous ces débats-là, évidemment, nous empêchent de parler de véritables enjeux qui concernent la population, justement. Mais ce que je voulais dire, c'est que les changements de société partent aussi de changements individuels. J'aime raconter cette anecdote. Pendant plusieurs années, j'ai organisé des activités auprès des itinérants, mais je n'y participais pas. J'y participais pas parce que je sais pas, ça m'était inconfortable, il y avait quelque chose. Jusqu'au jour où je me suis dit non, je sais pas quel est mon préjugé ou quel était le point qui me bloquait avec ça, mais un jour je me suis dit non, tu restes pas comme ça, tu y vas et puis tu participes. Et donc je suis allée, je sais plus, passer une semaine à la mission Albury pour faire le dîner et à l'accueil Bonneau pour servir aux tables. Et là j'étais contente de l'avoir fait parce que j'ai dépassé le malaise ou le préjugé que je pouvais avoir. Et ça m'a rassurée de voir que j'arrivais à considérer tout le monde sur un pied d'égalité. Et c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui avec l'utilisation politique et médiatique, la manière dont on marginalise une catégorie de la population, on enlève le côté humain. Mmh. Et c'est ce qui permet aussi plus facilement de dénigrer ou d'agresser si on enlève cette humanité. Donc c'est vraiment, vraiment important de se questionner soi-même, d'aller de confronter ses propres préjugés. Je pense que c'est quelque chose qui part de là, d'aller à la rencontre des gens. Beaucoup de gens qui ont des préjugés ne connaissent pas forcément de personnes de confession musulmane ou n'ont pas fréquenté certains milieux. Et là-dessus, nos élus peuvent avoir un impact important. Je discutais avec des élus municipaux ou des personnes du milieu municipal il y a pas si longtemps, en leur disant, vous êtes les plus proches des citoyens, vous pouvez avoir une influence là-dessus. Participez au souper communautaire, invitez la population à aller aux portes ouvertes, par exemple des mosquées ou dans les centres de migrants. Invitez-les, servez-vous de votre notoriété, de votre accès aux médias pour favoriser ces rencontres entre personnes. Et c'est là où on voit que nos médias et nos politiciens ont un impact, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle extrêmement négatif actuellement sur le climat social. Ouais. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se questionner et qu'ils pourraient jouer un rôle majeur pour aider les citoyens et les citoyennes à ouvrir leurs horizons. Et ils devraient normalement jouer un rôle clé pour rendre ce climat social plus harmonieux, plus ouvert en ce sens, mais ils ne le font pas.
Je pourrais vous parler pendant tellement longtemps, mais le temps va nous manquer. Donc, peut-être pour conclure, en juste quelques mots, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est ça un peu votre promesse, que si jamais vous êtes élu ou si jamais le Québec solidaire a encore des députés à l'Assemblée nationale, ça va être toujours là-dessus qu'ils vont essayer d'accentuer sur la promesse justement d'inclusion des citoyens dans les démarches qu'ils font?
En fait, il y a plusieurs les promesses que les gens n'aiment pas parce qu'ils disent toujours ils tiennent jamais leurs promesses, mais le programme de Québec solidaire est très fort en ce sens. Donc évidemment, remettre les préoccupations principales des citoyens en ce qui concerne la santé, l'éducation, qui sont des éléments majeurs et un souci majeur de notre population. Donc c'est vraiment important, le refinancement des organismes. Donc on parle d'une école publique accessible à tous, des soins de santé accessibles, une prise en considération de nos infirmières, nos travailleurs de la santé, la réduction des plus dans la justice sociale, la rémunération à $15 de l'heure qui prendrait vraiment en compte les soucis des gens qui ont du mal à y arriver. Mais effectivement, il y a aussi ce souci majeur que chacun... La définition de la nation de Québec solidaire, si je peux me permettre de conclure sur ces mots, c'est que la nation, l'appartenance à la nation ne se définit pas par l'ethnicité, mais par l'appartenance à des valeurs politiques communes. Et donc, là-dessus, effectivement, Québec solidaire veille toujours à ce qu'il n'y ait aucune marginalisation, à ce qu'on ne laisse personne derrière.
Mais merci, Madame Thorez, de venir me voir en studio.
Merci à vous pour l'invitation.